On a convoqué la presse aujourd'hui pour donner une mise à jour sur le plan de croissance, le plan d'agrandissement qui avait été annoncé le 14 janvier 2017, il y a un an passé. Et puis, le plan de croissance s'est déroulé sur une période de 14 mois où on était 178 employés à la base. Puis aujourd'hui, nous sommes environ 475 employés ici chez LM Windpower. Le plan était très optimiste à la base, mais le plan a été un franc succès. Période à laquelle on a eu vraiment une croissance de nombre d'employés qui était énorme. Le niveau était important, la croissance était rapide, le bassin de main-d'œuvre était limité, ce qui ajoutait encore plus au défi. Mais ce que nous sommes vraiment fiers aujourd'hui de vous dire, c'est que malgré la croissance, LM Windpower et Gaspé demeurent parmi les usines les plus performantes au monde. Considérant que 53 % de nos employés n'étaient pas avec nous il y a un an passé. Puis je vais pouvoir revenir aussi sur les facteurs clés qui nous ont permis de demeurer aussi performants. Donc, la qualité puis le niveau d'engagement de notre main-d'œuvre, c'est définitivement ce qui permet à une organisation comme la nôtre, une usine comme la nôtre, de demeurer performant, puis d'améliorer aussi nos performances, particulièrement dans un contexte où il faut continuellement abaisser le coût de l'énergie éolienne. Les usines performantes sont celles qui vont être vouées à un brillant avenir. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir voir que la péninsule gaspésienne, pas seulement la région de Gaspé, mais la péninsule dans son ensemble a pu bénéficier de la croissance de LM Windpower. Il y a un an, on était 178, comme je vous disais, nous avons augmenté à 475. Donc, de cette main-d'œuvre-là, 25 % de ces personnes-là n'habitaient pas en Gaspésie il y a un an. C'est quand même environ 120 personnes qui sont parties d'ailleurs au Québec ou ailleurs dans le monde pour venir travailler chez LM. Donc, l'impact sur l'économie de la région est considérable. Pas seulement la région de Gaspé, mais il y a aussi la MRC Rocher-Percé. On a fait le calcul, puis 20 % de notre main-d'œuvre aujourd'hui habite dans la MRC Rocher-Percé. Ça veut dire Percé, Grande-Rivière, Chandler, jusqu'à même Port-Daniel. Il y a des personnes, grâce à l'horaire de travail, qui est un horaire où les gens travaillent 175 jours par année, peuvent se regrouper, voyager ensemble, puis venir travailler chez LM. C'est vraiment un bassin qui nous a permis de croître, celui-là de la MRC Rocher-Percé. Dans un contexte où la population est vieillissante, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu abaisser notre moyenne d'âge de 5 ans, de 43 à 38 ans pour la moyenne d'âge de nos employés. Puis, vous savez, à Gaspé, les gens qui viennent de l'extérieur du Québec, c'est quand même assez rare, mais nous sommes fiers de dire que nous avons pu accueillir une vingtaine de personnes qui viennent de plusieurs pays à travers le monde. Je vous en nomme quelques-uns. L'Australie, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, Congo, d'autres pays d'Afrique aussi comme Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, la France, la Guinée, Île-de-la-Réunion, Pérou, République dominicaine et puis même les États-Unis. Fait que nous, on a vraiment, je pense, la capacité d'accueillir des gens qui viennent d'ailleurs puis de favoriser une intégration qui est un succès. Oui, la langue parlée primaire est le français. Mais je pense aussi on a quand même un niveau d'anglophone qui est important, ce qui permet à intégrer des personnes aussi avec différentes langues. Puis on donne des cours de français à différentes personnes. On a une histoire qui est quand même assez amusante. On a environ 10 personnes qui proviennent de la région de Gatineau. On a eu un premier employé, un deuxième, un troisième, puis on s'est dit, là, est-ce que ça va arrêter? Ça continuait. Puis on a eu environ 10 jeunes de la région de Gatineau qui sont venus travailler chez nous. On voit que l'industrie de la construction à Montréal a attiré énormément de main-d'œuvre. C'était quand même assez impressionnant. Lorsqu'on rencontre nos employés, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, la partie la plus intéressante de mon travail, c'est quand le mardi, je m'en vais rencontrer les nouveaux employés pour connaître leur histoire. Puis, lorsqu'on demandait à des gens qui travaillaient en construction à Montréal, pourquoi vous avez décidé de venir vous installer en Gaspésie? Et puis que la réponse était, j'étais tanné de faire du chômage à Montréal, je décidais de venir travailler en Gaspésie pour travailler à l'année. Fait que pour nous, c'est incroyable d'entendre quelque chose comme ça, des commentaires comme ceux-là. Et puis, ce qu'on dit à ces gens-là, c'est vous vous ennuirez pas, je vous le garantis. Un horaire de travail 2-2-3, une sécurité de travail pour du long terme. Je pense qu'on a réussi à changer la donne pour plusieurs personnes. C'est beau de dire qu'on a engagé 475 personnes, mais c'est les histoires derrière chacune des personnes qui sont intéressantes. C'est 300 plus histoires de personnes, où on parle de 25 %, c'est une centaine de personnes qui sont venues s'installer ici, qui ont décidé de refaire leur vie, qui ont décidé, dans certains cas, de revenir aux sources. Et puis, oui, on est très, très fiers du nombre, mais c'est les histoires qui nous touchent aussi, qui sont reliées. Il y a des gens qui sont revenus trouver leurs parents. Il y a des gens qui se sont dit « jamais que je vais retourner en Gaspésie », puis que 30 quelques années plus tard, ils reviennent en Gaspésie dans le patelin, qui ont pris la maison paternelle, la maison maternelle, et puis qui vivent là, qui sont heureux, puis qui voient la mer à chaque jour en se levant le matin. Facteur clé pour le succès. Premièrement, la stratégie de recrutement, de marketing, a été, je dois le dire, fantastique. Vous avez probablement vu des publicités par exemple, au Bye Bye l'année passée, à la télévision, à la radio. Il y a aussi, nous avons utilisé des outils tels que Facebook, mais aussi LinkedIn. De l'affichage le long de l'autoroute près de la région de Québec qui disait « Venez travailler en Gaspésie ». Les conférences de presse tout le long de la croissance nous ont permis de garder un contact avec la population, pouvoir informer les gens sur le niveau où on était par rapport à la cible. Puis finalement, l'inauguration de l'agrandissement le 14 juillet 2017, qui a été un peu le couronnement des efforts. La croissance a été rapide, nous avons dû agrandir l'usine en 6 mois. Fait que ça aussi, ça nous a permis de démontrer qu'on est une compagnie, une usine qui est efficace, puis ça attire de la main-d'œuvre. Le système de référence à travers les employés aussi a été un outil qui nous a permis d'aller recruter énormément de personnes auprès des familles, des amis de nos employés. Parce que quand un employé qui est ici, qui est satisfait, il va aller référer des gens près d'eux à venir travailler chez LM. Puis c'est ce qu'on s'est rendu compte. On a beaucoup de conjoints, conjointes, parents, enfants qui sont ici chez LM. L'excellente stabilité de notre personnel administratif nous a permis d'avoir, disons, de pouvoir pallier sur l'expérience de notre main-d'œuvre, mais aussi notre noyau d'employés de production. On avait un noyau à 178 qui était fort. On a eu très, très peu de départs dans notre noyau. Le noyau s'est adapté, il a formé ces 300 quelques employés-là. Ça a fait une différence énorme. Le centre d'excellence aussi dans lequel on est a permis à des gens de s'intégrer graduellement, de pouvoir apprivoiser un peu les méthodes, le matériel, les processus, avant d'aller sur le plancher dans un contexte qui est différent, qui est beaucoup plus production haute série. Ce qu'il faut ne jamais négliger en tant que gestionnaire, en tant que directeur d'usine, c'est le taux de satisfaction du personnel. Quand nos employés sont satisfaits, sont engagés, l'effet que ça va avoir sur les performances de l'usine, c'est considérable. Donc, la clé, c'est de communiquer. Autant on a communiqué avec la communauté, autant nous communiquons avec nos employés, le statut, le niveau de performance. On va aussi aller communiquer les résultats des indicateurs de performance pour que les gens puissent facilement se voir, bon, okay, mon équipe par rapport aux autres équipes, comment je me situe. Mais même au-delà de ça, l'usine de Gaspé par rapport à nos consœurs, nos usines sœurs, disons, en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Pologne, au Brésil, qu'on puisse se comparer, est-ce qu'on est une usine performante ou moins performante? Mais comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, très fier de vous dire que Gaspé est très, très performant, surtout dans un contexte où nous avons dû grossir très rapidement. Donc, le défi, c'était de conserver notre culture que nous avions à 178 personnes, la conserver jusqu'à 475. Puis je vous dirais qu'on ne l'a pas juste conservée, on l'a développée. On est encore plus compétitif aujourd'hui que nous l'étions il y a 2 ans passés. Quelles sont les prochaines étapes, les étapes à venir pour nous dans notre plan? Premièrement, c'est de maintenir un excellent programme de formation puis de développement de notre main-d'œuvre. On développe notre main-d'œuvre, on a une croissance, disons, on va le dire comme ça, qui est organique. C'est-à-dire que les gens à même l'usine vont aller monter les échelons graduellement dans l'organisation. C'est ce qui permet de garder un haut niveau de motivation. Nos superviseurs sont des gens qui étaient chefs d'équipe. Nos chefs d'équipe sont des gens qui faisaient partie d'une équipe de production. Nos gens à l'ingénierie étaient aussi à même l'équipe de production. Il y a vraiment une croissance professionnelle, disons, de notre main-d'œuvre. Donc, continuer aussi à être actif sur les enjeux locaux comme le chemin de fer. Nous sommes sur le comité de suivi. Nous allons continuer d'aller dans ce sens-là. Améliorer la compétitivité, particulièrement dans un contexte où le prix d'énergie éolienne doit continuellement diminuer. Vous savez, présentement, il y a des endroits dans le monde où on est en bas de 4 cents le kilowattheure. Fait que ce qu'on peut facilement comparer ça au prix du bloc patrimonial Hydro-Québec pour l'énergie hydroélectrique, là. Donc, l'avenir de l'éolien est indéniable. C'est la source d'énergie la nouvelle source d'énergie la plus installée aujourd'hui partout à travers le monde. Et finalement, continuer le processus d'adaptation pour pouvoir se positionner sur des modèles de pales beaucoup plus grands. Les modèles de pales aujourd'hui sont pour un marché particulier aux États-Unis, mais on sait très bien que 2021, 2022 et plus, on va se déplacer vers un marché, vers le offshore aux États-Unis, les pales en mer, des pales beaucoup plus longues, de 80 mètres et plus. C'est important de développer notre main-d'œuvre pour que celle-ci soit capable d'aller apprendre puis développer leur technique pour pouvoir aussi performer dans ces modèles de pales-là. Puis finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore la capacité d'embaucher. Malgré le fait qu'on soit 475, il y a encore de la place chez nous. Puis si notre usine est performante, puis que le nombre de pales fabriquées continue d'avancer, bien, nous allons continuer d'embaucher aussi. Je ne m'avancerai pas sur des chiffres, mais je peux juste vous dire qu'il y a une ouverture de notre part de ne pas freiner cet élan-là aujourd'hui, un an après avoir annoncé l'agrandissement de l'usine. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est que le bilan de la croissance est très positif et puis que c'était très agressif, c'était très optimiste, mais le bilan est positif dans son ensemble. Ce qui est important, c'est de remercier aussi nos employés qui se sont engagés, qui ne se sont pas seulement impliqués, qui se sont investis dans le succès de l'entreprise. C'est grâce à eux aujourd'hui que nous en sommes à ce point-là. Il y a aussi le maire, Daniel, qui est un bon ami à moi. On se garde continuellement au courant, moi et Daniel, des développements. On établit nos stratégies ensemble. Comment s'assurer que la ville de Gaspé puisse appuyer aussi le développement de l'ELM. Gaétan, qui est un fervent défenseur de l'ELM, Gaétan Lelièvre, notre député, qui va être avec nous aussi ce soir dans des rencontres d'employés pour pouvoir nous remettre une copie de la motion qui a été remise à l'Assemblée nationale en octobre pour souligner le travail des employés de la direction de l'ELM. Il y a aussi la ministre Dominique Andelade qui était avec nous durant le développement, qui nous a appuyés pour l'agrandissement de l'usine, mais aussi qui parle de l'ELM Wind Power pratiquement partout où elle va, où elle fait des apparitions publiques, où on parle de développement économique. ELM Wind Power est une histoire à succès. Puis finalement, notre CEO, notre chef de la direction de l'ELM Wind Power, Marc De Jong, qui a cru en nous. Vous savez, Marc est venu ici il y a environ 2 ans, puis il s'est dit, il y a quelque chose de spécial dans cette usine-là. Il y a un virus. Il y a un virus qui s'attrape, qui fait qu'on croit que cette usine-là a un potentiel énorme. Bon, premièrement, les défis pour l'avenir, c'est oui, on est performant, oui, on est parmi les meilleures usines au monde, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut vraiment continuer à s'améliorer pour pouvoir continuellement baisser le prix de l'énergie éolienne. Nous savons, le offshore va devenir de plus en plus important. C'est les éoliennes en mer. Les pales sont de longueur beaucoup plus importante. Donc, l'amélioration de la qualité est un facteur clé aussi parce que avec des pales de 80 mètres et plus, les enjeux sont beaucoup plus grands lorsqu'on parle de qualité. Et puis, aujourd'hui, notre prévisibilité, disons, du marché est connue pour plusieurs années à venir. Et puis, on ne voit pas de problème. Le train n'est pas un enjeu pour perdre du volume à ce niveau-là. Par contre, le train peut être un élément important 2021, 2022, 2023, dépendamment vers quel marché on se situe. Est-ce qu'on se situe sur des pales moins de 80 mètres, plus de 80 mètres? Ça peut avoir un impact. C'est sûr qu'à 80 mètres et plus, nous allons devoir regarder beaucoup plus du côté du port de Gaspé et puis développer des accès au port qui vont être plus faciles. On rêve toujours du chemin entre ELM Wind Power et puis le port, un accès direct qui pourrait nous permettre d'abaisser nos coûts, mais aussi d'avoir un accès plus facile au port. Parce que des pales de 80 mètres sur nos routes, c'est faisable, mais c'est quand même un inconvénient. Le marché de l'éolien à travers le monde, c'est clair, il est en pleine croissance. Et puis oui, on est dans une certaine situation au Québec où, court terme, on ne voit pas de marché. Mais le marché à l'extérieur, par exemple, qu'on regarde en Alberta, Saskatchewan, il est quand même, c'est un très bon marché, un marché en croissance. Le marché américain va être bon aussi jusqu'en 2022-2023. On voit qu'il y a des perspectives de développement partout. Nous, au Québec, ce qui nous intéresse, c'est les récentes nouvelles par rapport au centre de données, la crypto-monnaie. On a hâte de voir quels sont les développements, comment Hydro-Québec va faire face aux besoins potentiels qui s'en viennent. Vous avez vu peut-être les nouvelles récentes à ce sujet-là. Et puis, ce qui intéresse les compagnies de crypto-monnaie, c'est le fait que le Québec ait un coût d'énergie qui est bas, mais aussi le climat plus froid par rapport à des centres de données, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vas dépenser moins d'énergie pour refroidir ton centre de données qui va émettre de la chaleur. Fait qu'on voit, ce qu'on comprend, c'est que Hydro-Québec a peine à répondre à la demande, mais nous, l'industrie éolienne, on est là pour aider à répondre à la demande à venir, une demande qui peut être rapide, Puis ça allait à l'intérieur de 2 ans, 3 ans, un parc éolien peut être érigé au Québec. Là, c'est beaucoup plus rapide que plusieurs autres sources d'énergie.